France Inter.
Journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le bras de fer entre les aiguilleurs du ciel et la direction de l'aviation civile. Appel à la grève massivement suivi demain, préavis lancé pour le pont de l'Ascension. L'organisation du travail va changer pour les contrôleurs aériens. On va faire le point sur ceux qui bloquent dans les négociations. Et si la vie des chefs d'entreprise était plus facile, objectif de Bruno Le Maire et de ses 50 mesures de simplification annoncées aujourd'hui, les patrons attendent de voir. Dans ce journal aussi, la vie des Palestiniens de Cisjordanie, 120 000 ont perdu leur emploi depuis le 7 octobre. La dernière séance des eurodéputés à Strasbourg avant l'élection du 9 juin. L'application Tinder qui propose de sécuriser les rencontres entre ses utilisateurs. Et Zendaya à l'affiche d'une histoire de sexe, d'amour et de tennis. Mais oui, c'est Challengers au cinéma cette semaine. Nicolas, qui est donc votre invité tout à l'heure à 8h20.
Eh bien, on ne l'a pas vu depuis qu'il a quitté la tête de la CFDT l'été dernier. Il revient aujourd'hui comme membre du Crédit Mutuel où il dirige un institut pour l'environnement et la solidarité. Il publie un livre qui fait l'éloge du compromis. Laurent Berger reprend la parole ce matin dans le Grand Entretien et j'attends vos questions 01 45 24 7000.
France Inter.
Ils assurent la sécurité du trafic dans les airs. Sans contrôleurs aériens, pas d'avions en vol. Leur grève demain va paralyser 75% des décollages à Orly, 65% à Roissy et Marseille et la moitié des vols au moins dans les autres aéroports de région. En pleine vacances des zones A et B, le principal syndicat des aiguilleurs vient aussi de déposer un préavis pour le pont de l'Ascension jeudi, vendredi, samedi du 9 au 11 mai. C'est ce qu'on appelle un rapport de force, conséquence de la vaste réforme du contrôle aérien en France et des contreparties qu'attendent les contrôleurs. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à toutes et tous.
À ce stade, c'est le constat d'échec. 15 mois de négociations avec la direction de l'aviation civile et demain, c'est la grève dure. On n'y échappera pas, Claire?
Eh bien, il y a de l'incertitude en fait ce matin parce que les négociations continuent à la direction générale de l'aviation civile. La nuit a été longue autour de la table, les principales organisations syndicales, beaucoup de cafés, des pauses, des conciliabules et des discussions, nous dit-on, qui se poursuivent encore au petit matin. Une deadline fixée, celle de la fin de matinée. Après cela, sans accord, le plan d'annulation des vols tout à fait massif, hein, vous l'avez dit, eh bien, devra se mettre en route pour éviter une pagaille trop importante dans les aéroports.
Et sur le fond, Claire, il y a une réforme qui doit améliorer la productivité des contrôleurs et donc changer leurs habitudes de travail.
Ouais, grosse réforme, ça va de l'obligation de badger ou de pointer au changement des horaires de travail, y compris dans l'année, plus de flexibilité, travailler plus l'été, moins pendant les périodes creuses, modification de la hiérarchie des salles de contrôle, au programme aussi fermeture de tours de contrôle en région, des avions qui voleront vers Deauville ou Rouen par exemple, gérés désormais depuis Rennes ou Lille. Énorme réorganisation donc pour gagner en productivité et en sécurité, hein, selon la DGAC qui fait régulièrement référence à un incident où l'on a frôlé la catastrophe à Bordeaux en décembre 2022, sauf que tout cela devait se faire selon les syndicats avec des compensations salariales, pas seulement des primes, des augmentations indiciaires substantielles pour rejoindre, disent-ils, les standards salariaux européens. Augmentations promises initialement par la direction selon les syndicats, mais qui ont disparu des dernières versions de l'accord. Des syndicats dont les regards se tournent vers Bercy, le ministère des Transports et celui de la fonction publique qui n'auraient pas donné selon eux leur aval à de telles hausses en plein débat sur le déficit budgétaire, des ministères qui suivaient de très très près cette nuit l'avancée des discussions.
Claire Chaudière, en septembre dernier, les principaux syndicats d'aiguilleurs du ciel s'étaient engagés à ne pas faire grève pour des questions salariales jusqu'à la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques. Combien d'emplois supprimés chez Casino après la vente de ces hypermarchés? La nouvelle direction doit l'annoncer aujourd'hui. Il est question des magasins qui restent dans le périmètre du groupe et du siège historique de Saint-Étienne. Et les entreprises seront-elles soulagées par le nouveau plan de simplification présenté aujourd'hui en Conseil des ministres? La simplification ou le mirage tant attendu au fil des annonces et des années. Cette fois, Bruno Le Maire y croit dur comme fer avec ses 50 mesures pour changer la vie des entrepreneurs.
La demande globale, c'est moins de paperasse. Un chef d'entreprise, il peut passer jusqu'à 8 heures de sa semaine dans la paperasse alors qu'il est là pour créer des emplois, pour créer de la prospérité pour son entreprise. Il a des CERFA à remplir. Il y a encore 1800 formulaires CERFA. On va tous les supprimer, 80% d'ici 2026. Les déclarations d'arrêt maladie aujourd'hui. Salarié va chez le médecin envoie ça à la sécurité sociale. Et ensuite, il faut que le chef d'entreprise lui-même renvoie à la sécurité sociale. C'est 15 millions de formulaires chaque année. On va le supprimer.
Bruno Le Maire, et ses quelques exemples de simplification. Hier soir sur France 2, moins de déclarations, moins de demandes d'autorisation. Est-ce que les patrons y croient cette fois ? Mathilde Dehimy a rencontré une entrepreneuse à la tête d'une PME familiale qui fabrique des fenêtres à Champigny-sur-Marne.
Catherine Guerniou préférerait passer plus de temps dans son atelier et moins dans son bureau.
Sur une journée de travail, j'ai bien une demi-journée qui va être liée à la partie administrative. On n'a plus d'interlocuteur. On envoie des mails. Au bout de 3 mois, on a une réponse. Mais la réponse, elle ne correspond pas réellement à la demande que l'on a faite. Donc on envoie des recommandés. C'est irrespectueux.
Avec toujours la peur de se tromper, le projet de loi supprime la case prison pour certaines erreurs, remplacée par de lourdes amendes. Les formulaires CERFA dans les arrêts de travail disparaîtront, mais pas avant 2030. Un soulagement pour la dirigeante de 13 salariés.
Le plus vite ça sera opérationnel, le mieux ça sera.
Car les chefs d'entreprise, dit-elle, n'en sont pas à leur première réforme.
J'ai l'impression que c'est un mirage, parce que c'est toujours plus compliqué. Il y a toujours l'exception qui va faire qu'on va contourner cette simplification et du coup, on va jamais rentrer dans le bon créneau pour justement gagner du temps.
Catherine Guerniou attend beaucoup, surtout du coffre-fort numérique.
Il y a plusieurs organismes qui nous demandent parfois les mêmes déclarations et il serait plutôt bien de les avoir en commun et comme ça, chacun viendrait piocher ce dont il a besoin. Et ça serait aussi une avancée considérable.
Elle a en revanche plus de doutes sur la simplification des bulletins de paie. Il faudra mettre à jour les logiciels et cela a un coût pour nous, dit-elle.
Le texte prévoit, merci Mathilde Dehimy, de revoir chaque année les normes ou règles inutiles pour les supprimer. Premier examen du texte donc au Sénat le 3 juin.
8h08, voilà un gouvernement qui assume, lui, de compliquer la vie de ses ressortissants.
C'est l'Ukraine qui vient de suspendre les services de ses consulats à l'étranger pour les hommes de 18 à 60 ans. L'Ukraine qui a besoin de nouveaux soldats sur le front veut les faire rentrer. Les hommes en âge de combattre ont théoriquement interdiction de quitter le pays, mais ils seraient des dizaines de milliers en exil depuis le début de la guerre. De nouvelles armes pour l'Ukraine dès cette semaine, ça c'est la promesse de Joe Biden. Dans la foulée du vote du Congrès cette nuit, les États-Unis vont bien aider le pays à hauteur de 61 milliards de dollars, mais aussi Israël, 13 milliards d'aide militaire, au moment où les étudiants manifestent dans les universités américaines contre la guerre à Gaza. Et depuis le 7 octobre, la vie des Palestiniens de Cisjordanie a aussi été bouleversée. On a beaucoup parlé des attaques de colons. Il y a l'emploi également. 120 000 Palestiniens ont perdu leur travail. Reportage sur place, signé Omar Waman.
Avant le 7 octobre, Ali faisait chaque jour la navette entre sa ville de Siloa dans Cisjordanie et les chantiers de construction à Tel Aviv. Mais après les attaques du Hamas, le permis de travail de ce père de 2 enfants a été annulé.
J'étais sous le choc. Nous, les ouvriers, on n'a rien à voir avec cette guerre. On n'a rien à voir avec le Hamas. C'est une punition collective. Maintenant, je passe mon temps chez moi. Je n'ai plus de travail, pas de revenus. Ma vie s'est arrêtée. Pour nous remplacer, Israël recrute des ouvriers chinois, indiens ou thaïlandais. C'est une calamité.
Ali a dû vendre sa voiture pour joindre les deux bouts. Quant à Mustapha, cuisinier en Israël, avant le 7 octobre, il a emprunté à sa famille et trouvé récemment du travail dans un petit snack.
Je viens de trouver ce petit boulot qui me permet de gagner 15 euros par jour environ, alors qu'en Israël, je pouvais gagner jusqu'à 100 euros par jour. 15 euros, c'est pas assez. Je peux rien faire avec si peu. Le sac de pain coûte 2 euros. Le paquet de cigarettes, près de 7 euros. Tout est cher. J'ai 3 enfants à nourrir. Et chaque mois, je m'endette un peu plus. Ce n'est pas juste. Ce qu'on veut, c'est vivre dignement.
Si Israël accélère le recrutement de travailleurs étrangers pour remplacer les Palestiniens, l'État hébreu envisage également de laisser revenir certains d'entre eux, mais sous haute surveillance.
Reportage Omar Waman et Eric Audra. Couper le cordon avec la Chine, le Congrès des États-Unis a aussi voté cette nuit la possible interdiction de TikTok. On en parlait hier, si le réseau n'est pas vendu localement à une entreprise américaine d'ici 1 an. Au Parlement européen, à Strasbourg, c'est donc la dernière session plénière avant les élections du 9 juin. L'heure des adieux pour les eurodéputés qui ne se représentent pas ou qui partent à la retraite, comme le centriste Dominique Riquet, 15 ans de mandat pour cet ancien maire de Valenciennes, que l'on retrouve dans son bureau. Reportage Élodie Forêt.
Sur les murs beiges, rien, pas une photo, pas un souvenir de ses 15 ans.
C'est mon bureau depuis des années, il n'y a rien dedans. Ben, c'est un peu la métaphore de notre rôle public, c'est-à-dire qu'on n'est pas connu, un peu désincarné, oui, c'est vrai. Oui.
Désincarné, car ici, explique Dominique Riquet, le tempo est lent, à l'inverse des coups, des buzz, des années parfois pour obtenir une victoire.
Parce que c'est 27 États membres. Nous, c'est du compromis. C'est de la discussion, donc c'est long.
Alors a-t-il eu des regrets, parfois, de ne pas être à Paris, à l'Assemblée nationale ? Jamais, répond Dominique Riquet, fier de son travail, notamment à la Commission des transports.
Les droits des passagers, la capacité de se défendre, hein, quand on a des problèmes avec ses billets ou avec son remboursement, etc. Tout ça, bah, c'est ce qu'on a fait, c'est beaucoup.
Dominique Riquet, un œil dans le rétroviseur, un œil sur les projections avec ce nationalisme qui partout progresse en Europe.
Les gens d'extrême droite, au départ, je les ai entendus ici dire « nous allons quitter l'Europe ». Maintenant, ils ne quittent plus rien du tout. Il y a, d'une certaine façon, la menace de dissoudre les extrêmes dans l'Europe plus que de dissoudre l'Europe dans les extrêmes.
Optimiste donc, Dominique Riquet, ses dossiers en main, prêt à retourner en plénière.
Jusqu'à la dernière minute.
Élodie Forêt, des couvre-feux pour les moins de 13 ans dans la foulée de la décision de Robert Ménard à Béziers. Christian Estrosi annonce l'interdiction de sortir non accompagné après 23 heures à Nice à partir du mois de mai et pour toute la période estivale sur fond de sursaut d'autorité contre la violence des mineurs promis par le chef du gouvernement Gabriel Attal. Combien d'Airbnb et autres locations de meublés touristiques à Paris ? 60 000 officiellement enregistrés mais sans doute beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Alors à l'approche des Jeux Olympiques, la mairie de Paris est en train d'intensifier ses contrôles pour traquer les abus. Agnès Soubiran a suivi une équipe en plein travail.
Le rendez-vous est fixé devant un immeuble cossu de la rue Croix des Petits Champs dans le premier arrondissement de Paris. Première étape, les boîtes aux lettres.
Vous allez voir que sur cette première boîte aux lettres, il y a juste ici, il y a des boîtes à clés typiques pour justement des Airbnb.
Il faut ensuite monter dans les étages avec Jean-David et Emeline.
Bonjour.
Je connais la loi. Vous pouvez voir avec les impôts.
Mais je trouve ça très intrusive.
Une enquête va bel et bien être ouverte.
On va vérifier en fait ce qu'elle nous a dit, donc avec justement les données dont on dispose sur les statuts des différents propriétaires. Et s'ils ne sont pas propriétaires occupants, bah, est-ce qu'ils ont demandé cette fameuse autorisation ?
Dans un marché immobilier très tendu et dans la perspective des Jeux Olympiques, Barbara Gomez, élue à la mairie de Paris, en charge de l'encadrement des meublés touristiques, assume une politique coercitive.
Donc on ne veut pas que des propriétaires peu scrupuleux profitent de ce moment festif et solidaire pour faire du meublé de tourisme à des fins extrêmement lucratives. Le logement n'est pas un bien comme les autres et c'est aussi le message qu'on veut faire passer aujourd'hui.
Et chaque année, une centaine de dossiers se retrouvent ainsi devant la justice.
Agnès Soubiran, l'avis sur les applis au-delà des locations de vacances, ce sont aussi les rencontres sur la plateforme la plus utilisée dans le monde, j'ai nommé Tinder, qui veut sécuriser les dates, les rendez-vous entre ses utilisateurs. Une nouvelle fonctionnalité permet de partager désormais tous les détails de la rencontre avec ses amis, heures, photos de profil, localisation, pour éviter les mauvaises surprises et pouvoir réagir en cas de problème. Un réflexe que beaucoup d'utilisatrices avaient déjà adopté, Romaric Caillet.
Attablée à une terrasse parisienne, Oriane sait qu'elle peut compter sur sa meilleure amie Chloé, assise juste à côté d'elle.
C'est hyper normal pour nous. Bon bah, je pars en date, je te partage ma localisation et la copine dit « Ok, super, amuse-toi bien ».
Ouais, c'est rassurant quand même parce qu'on sait jamais. Hein.
Inscrite depuis 2 ans, Oriane a toujours eu ce réflexe.
Ça devient un peu la même chose que genre sortir avec ce papier d'identité. Ça semble bizarre dit comme ça, on dirait que genre je pars à la guerre, mais c'est tellement normalisé. Par sécurité, je le fais, ouais.
Ils sont sur Tinder, un célibataire sur deux à prendre leurs précautions.
Et ça, franchement, c'est un réflexe que j'ai vu qu'entre filles.
Elles sont 2 fois plus nombreuses à se dire stressées par le date. Comme Julia, 26 ans, et pour cause.
Honnêtement, ça a déjà littéralement sauvé la vie de certaines de mes potes, quoi.
Au début de l'année, une de ses amies la prévient qu'elle a un rendez-vous. rendez-vous.
Elle m'a partagé sa loc, mais elle m'a dit ouais, je te l'envoie au cas où.
Finalement, dans la nuit,
elle m'envoie un message. Elle me dit tu vas me chercher dans 2 minutes, ça se passe pas du tout comme il faut. Il y a un type que je connais pas, je suis chez lui, il veut pas me laisser partir.
Julia décide alors de retrouver son amie à l'adresse qu'elle lui avait envoyée.
2h du matin, on réfléchit pas quoi, on va, on met une veste, on y va quoi.
L'homme prend peur, elles arrivent à fuir. Pour Julia, encore traumatisée, les plateformes comme Tinder doivent en faire plus.
Ça arrive tard et c'est encore un peu primaire. Autre que la géolocalisation, il faudrait vérifier les profils déjà.
Beaucoup dénoncent notamment les faux profils trop nombreux.
Reportage signé Romaric Caillet à la page des sports. Le PSG sera-t-il champion dès ce soir en Ligue 1? Ça n'est pas impossible. Pour cela, les Parisiens doivent gagner à Lorient et Monaco doit perdre face à Lille. Et puis aux confins du sport, du cinéma et du sexe, voici un film assez particulier à l'affiche cette semaine, Challengers de Luca Danino avec la coqueluche hollywoodienne du moment, la comédienne Zendaya. Ce film se partage entre cours de tennis et chambre à coucher. C'est une histoire de ménage à trois, Corinne Pellissier.
C'est une plongée dans le monde impitoyable du sport, filmée sous un angle pour le moins inattendu, la compétition et le sexe au même niveau dans ce triangle amoureux que l'on va suivre comme un thriller tour à tour depuis un terrain de tennis et une chambre d'hôtel. Deux garçons, Josh O'Connor, Mai Fest, une fille, Zendaya, et au centre, le réalisateur italien de Call Me By Your Name, qui retrouve ici son goût très prononcé pour le drame et la romance, au plus près du désir, au plus près des corps, au plus près surtout de la comédienne la plus demandée du moment, qu'il a transformée dans le film en star du tennis sans foi ni loi. Tashi Duncan, bien décidé, en dépit d'une blessure, à rester dans le match coûte que coûte, profitant de son aura auprès d'un mari et de son ami de jeunesse. Le feu et la glace, c'était leur surnom. Meilleurs amis dans la vie, prêts aujourd'hui à en découdre dans un tournoi de Challenger. Un petit peu pour la coupe et pour les beaux yeux surtout de la magnétique Zendaya. Le tennis et l'amour comme une drogue dans un film tendu, rythmé par la musique entêtante de Trent Reznor et de nombreux allers-retours de balles et de sauts dans le temps. Sulfureux, mais sportif.
Voilà, un trio amoureux ou un couple mixte,
comme le dit le Figaro,
dit le Figaro ce matin. C'est Challengers au cinéma ce mercredi.
Merci Florence Paracuelos. On ne présente plus David Castello-Lopez et sa chronique tous les mardis dans le 7-10. Il est aussi en tournée dans toute la France avec son premier seul en scène. Et il sera l'invité de Léa Salamé à 9h20. La météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Marie-Pierre, une perturbation arrivée cette nuit continue de traverser le pays.
Et actuellement, Nicolas, ces pluies arrosent les régions de la Nouvelle-Aquitaine, à l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi de la Bourgogne-Franche-Comté aux Ardennes, où il neige, comme sur les Vosges, le Morvan, le Jura et les Alpes des 300 mètres. Et puis après le passage des pluies sur le nord, eh bien, le ciel reste bien nuageux, avec encore une averse possible près de la Manche aux Hauts-de-France, voire jusqu'à l'Île-de-France. Puis dans le sud, plus vous vous rapprochez de la Méditerranée, plus le ciel est dégagé sous le vent. En revanche, une averse est possible encore en Corse, ainsi que quelques flocons, mais ils gênent moins fort. Il fait moins 3 à Mende, moins 1 dans la Nièvre, mais aussi dans les Vosges. Vous avez 4 à Nancy, 5 à Toulouse et 10 à Châlons en Vendée.
Et la perturbation se bloque sur les Pyrénées cet après-midi.
Oui, il va neiger à 1300 mètres. Comme en Corse, les pluies vont s'évacuer quand même davantage par la façade est et les averses se déclencheront encore sur le sud-ouest, au massif central, aux Alpes, au Grand Est et le long de la frontière belge, avec encore de la neige sur tous les reliefs et le soleil qui sera toujours généreux sous le vent autour de la Méditerranée, où vous pourrez d'ailleurs apercevoir cette nuit la pleine lune rose. Et pas plus de 6 à Belfort cet après-midi ou dans le Cantal. À Saint-Saturnin, il fera 10 à Lille, Strasbourg comme à Fécamp, 12 à Paris et à Lyon, comptez 14 à Poitiers et Paimpol, 16 à Manosque et Ajaccio et jusqu'à 19 à Le Luc dans le Var, en se rappelant ce jour des petits et grands enfants, Nicolas. Hakuna Matata, c'est le roi lion, une devise africaine, Swahili, qui veut dire tu vivras ta vie sans aucun souci.
Merci beaucoup, Marie-Pierre Planchon. On prend et on prend vraiment. 8h19.